France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Demain, jeudi 14 juin, est un jour important pour nos amis et voisins suisses. Cette date commémore l'inscription en 1981 de l'égalité homme-femme dans la Constitution helvétique, dont l'application a été revendiquée 10 ans plus tard, lors de la Grande Grève des femmes en 1991. Pour rappel, en Suisse, le droit à l'avortement, c'est 2002, le mariage pour tous, 2022, et l'âge du départ à la retraite des femmes vient d'être voté, 65 ans. Or, voici que depuis 4 ans, en 2019, les femmes suisses, dans un pays qui n'est pas exactement réputé pour son esprit rebelle, ni pour ses manifestations ou ses mouvements sociaux, depuis 4 ans donc, les femmes suisses ont décidé de protester à nouveau pour plus d'égalité, surtout sur les salaires, on est en Suisse, et moins de violence à leur égard. Elles ont lancé le 14 juin une nouvelle grande grève féministe qui a été suivie en 2019 par plus de 500 000 personnes sur 8 millions d'habitants, c'est énorme. Les années suivantes, ça a continué chaque 14 juin, avec un petit creux bien sûr pendant le Covid, et demain, ça promet d'être à nouveau une vraie grande grève féministe, avec des ateliers pour préparer des pancartes, des slogans, des panneaux, des cris de la colère, à vue de nez pas super suisse. Le point culminant de la journée, c'est à 15h24, et si vous écoutez bien ce récit signé Anne Delsette, vous comprendrez pourquoi. On y entend deux femmes impliquées et un adolescent qui nuance un peu l'enthousiasme des Suisses pour la grève et le nôtre du même coup.
Moi, c'est Léa. J'habite Renan. C'est à côté de Lausanne, en Suisse. Je suis mathématicienne et j'enseigne les maths au lycée, ils ont 15-18 ans. J'ai fait mes études à l'école polytechnique de Lausanne, le PFL. J'ai fait microtechnique. Alors en microtechnique, on était 7 filles sur 140. Et en fait, il n'y avait pas de problème si j'étais une fille ou un garçon, parce qu'il y avait toujours ce truc sexiste très intégré de « je suis pas comme les autres filles ». Les filles, c'est nul et c'est chiant. Ça parle de trucs de filles. J'avais ce côté garçon manqué, enfin, où tu aimes pas le rose, tu aimes pas les paillettes. Donc j'étais pas vraiment comme une fille, puisque j'aimais les trucs de garçon. Et du coup, tu peux être pote avec les garçons et faire des blagues sexistes avec les garçons. Et il faut un petit moment pour réaliser qu'en fait, c'était pas une bonne idée. Tu tires une balle dans le pied, tu tires une balle dans le pied dans les autres filles. Parce qu'en fait, t'es pas là parce que t'as le droit d'y être en tant que fille, t'es là parce que t'es pas vraiment une fille. Tu rejoins le clan des garçons. Je pense que j'ai réalisé qu'en fait j'étais une femme, mais je pense en fait c'est en réalisant les oppressions finalement. C'est qu'en fait j'avais les mêmes oppressions que les autres femmes. C'est pas parce que j'avais pas l'impression d'en être une qu'on m'opprimait pas. Tu fais du vélo en short, t'as des gars qui te courent après qui font des bruits, t'as des mains aux fesses, t'as 14 ans, t'es en short, et puis t'as le gars dans le bus qui passe le trajet à mater tes seins et puis à faire des remarques. Enfin. Il m'a fallu quelques années de lecture féministe et de trucs pour dire, mais en fait, non, je suis une femme et ça va. Mais il a fallu des années pour se rendre compte de ça. J'ai entendu parler de la grève des femmes quand il y a eu des assises féministes en juin 2018. Puis à ce moment-là, je travaille à l'école polytechnique comme médiatrice scientifique. Il y a un collectif qui s'est monté à l'Uni, l'Université de Lausanne, qui ont fait une première réunion, puis moi j'ai été. Et puis bah, là j'ai réalisé qu'en fait, sur toutes les femmes qui étaient dans la salle, j'étais la seule de l'EPFL. Enfin, c'est quand même, je sais plus combien de gens c'est l'EPFL, mais genre 10 000 peut-être. C'est énorme, c'est une petite ville, enfin, et que personne sur cet immense campus s'intéresse, c'était pas évident. Et puis surtout, je dis, mais en fait, ce serait cool qu'on fasse aussi un collectif Uni, École Polytechnique. Parce que ben, y a aussi des problèmes, et puis si on peut travailler ensemble, c'est cool. Donc je ne me suis pas posé la question, j'ai dit ben, je me mets en contact, et puis ben, dites-moi s'il y a des gens de l'EPFL qui contactent, et puis on verra. C'est un peu parti comme ça. Avant ça, je ne savais pas très bien ce que c'était une grève, je n'avais jamais fait grève. C'est vrai qu'on ne savait pas très bien, il y avait plusieurs manières de faire grève. Il y avait des propositions d'arrêter le travail à 15h24. Parce que si on compte une journée de 8 heures de travail, qui commence à 8h du matin, si les femmes sont payées 20% de moins que les hommes, elles travaillent 20% moins du temps. Donc, il y avait l'idée d'arrêter le travail à 15h24, même si on ne pouvait pas arrêter de travailler ce jour-là. Et nous, finalement, on a demandé en fait que les employés puissent ne pas travailler ce jour-là, ce qui a été accordé. Donc c'est une grève, mais qui a été autorisée, enfin, donc c'est très absurde. Il y a quoi, on a 500 personnes qui sont venues à l'EPFL, et je pense que s'il n'y avait pas eu finalement une autorisation de la direction, je ne suis pas sûre que ces personnes seraient venues. On a peur de se mettre à dos l'employeur, de... Donc ça va, mais il faut du consensus, et puis il faut que tout le monde soit un peu d'accord pour qu'on avance, et puis... Finalement, on s'est retrouvés pour rédiger le manifeste. Par exemple, il y avait des questions de travail parental, de violences sexistes et sexuelles, de harcèlement sexuel sur le campus, les inégalités vis-à-vis aussi des personnes racisées, et puis LGBTQIA+. Enfin, on avait vraiment listé des manières d'y remédier, plutôt que de faire comme si tout allait très bien. Du coup, le 13, à 23h, il y avait un rendez-vous devant la cathédrale, et puis là, à minuit, il y a les guettes. Donc, historiquement, il y a un guet à la cathédrale de Lausanne qui dit l'heure toutes les heures, toute la nuit. Et historiquement, les femmes n'avaient pas le droit de faire ce métier. Et ce jour-là, du coup, c'était 2-3 guettes qui sont nues et qui ont crié l'heure à minuit et qui ont lancé le début de la grève. Et on avait, des casseroles, des fumigènes, puis il y a des gens qui sont pleins qui avaient des fumigènes. On a poussé des grands cris et c'était vraiment, vraiment, vraiment super. Le lendemain, j'ai dû préparer mon sac. Je pense que j'avais genre 1,5 litre d'eau parce qu'on savait que ça allait être une longue journée. Enfin, vraiment, je partais en excursion. J'avais de la crème solaire, j'avais une jupe à paillettes, j'ai une petite cape en satin violet, une jupe à sequins, c'était bien. Et un énorme sac à dos. Donc on avait des pins et des autocollants. Puis on s'est retrouvés à l'EPFL. Là, on a bricolé des pancartes. Moi, j'avais écrit, c'était « Au vert et contre tout ». On avait préparé des panneaux à accrocher aux fenêtres, on a été installer la scène et on a lu le manifeste en fait morceau par morceau.
Le système oppressé et raciste ne peut pas nous défendre contre les violences patriarcales. C'est pour ça qu'on appelle à l'autodéfense féministe.
J'étais complètement surexcitée et complètement épuisée. Enfin, il y avait vraiment tellement d'adrénaline dans cette journée. Enfin, on est tout au quart de tour, quoi. Enfin, ça, il y a 300 personnes, non, 400, attends, non, on m'a dit 500, ouais, on m'a dit 500. Et puis après, on est monté au centre de Lausanne, donc à la place Saint-François, qu'on avait rebaptisé Sainte-Françoise ce jour-là. Et là, enfin, c'était fou. On est descendu vers la gare. Et puis à la gare, il y a toutes celles de Morges, d'Yverdon qui sont arrivées en train. Donc il y avait déjà tellement de monde et il y a encore tellement de monde en plus qui arrivait. Puis en fait, les gens n'arrêtaient pas d'arriver. Enfin, mais c'était fou. On était tellement nombreuses. Et on était 60 000 à Lausanne. Enfin, la ville fait 100 000 habitants, quoi. Enfin, c'est... ouais, c'est tellement heureuse de voir ça. Enfin, genre... ça avait marché. Enfin, il y a vraiment tous ces mois de travail, de discussion, de ça va pas marcher, de qu'est-ce qu'on fait, il faut avoir des autorisations de manifester. Enfin, donc il y avait les groupes de gens qui discutaient avec la ville, avec la police. C'était vraiment tout. Une inertie pas possible, les réponses sont longues. J'étais encore plus épuisée, surexcitée, et heureuse et joyeuse. Et... le soir, fin de journée, il y avait une fête, donc je me dis j'allais aller à la fête parce qu'enfin on pouvait faire la fête. Il y avait tous ces gens que je connaissais pas et pour qui c'était la fête. On s'est mobilisé pas pour faire la fête. Enfin, on veut que ce soit joyeux. Mais on veut être joyeux en sachant pourquoi on est là. Enfin, vraiment, dans cette fête, après, c'était... enfin, j'en pouvais plus. Enfin, j'étais épuisée. Je sais pas, on m'a fait une remarque sur la taille de mon sac et puis ça m'a... C'était vraiment la goutte d'eau. J'étais là, non mais mon sac, il tenait ma vie aujourd'hui. Enfin, on laisse tranquille, personne n'y dit mal de mon sac. J'ai fondu en larmes et puis j'ai fait, maintenant je vais rentrer dormir. Et je suis rentrée dormir. Et j'ai dormi et le lendemain, j'ai pleuré. Je crois que j'ai pas été au travail le lundi qui suivait parce qu'en fait, je pouvais pas. J'avais pas la force d'aller travailler et puis d'aller dire que c'était ok et puis que ça allait et... Je pense que j'ai dû retourner au travail, mais j'ai le burn-out de la fatigue qui s'est mélangé avec le burn-out du travail. Et puis j'ai démissionné en mi-septembre. J'avais trop fait, j'avais l'impression à l'époque d'avoir plus de peau. C'est comme si j'avais plus de barrière contre l'extérieur, que tout m'atteignait instantanément. J'avais plus de protection. Et ouais, il m'a fallu un moment pour me remettre... C'était tellement irréel comme moment, et puis j'ai tellement donné d'énergie, puis réfléchi, puis... Tu te bats contre le patriarcat. C'est beaucoup de choses, c'est grand. Ça prend beaucoup de place. Je suis retombée sur des messages des copines qui rentraient de la manif. Et elle dit, mais en fait, les gars l'ont fait chier dans la rue. Et je pense qu'il y avait un peu cet espoir de genre, ah mais peut-être qu'en fait tout va changer du jour au lendemain, un peu la pensée magique, de, ça va aller mieux d'un coup. Mais en fait, non. En fait, c'est la même merde, et puis c'est pas... Puis les copines de la grève ont essayé d'organiser des trucs militants. Mais c'était compliqué. J'avais une boule dans la gorge tout le temps. Enfin, je sais pas, j'étais sensible au bruit, j'étais sensible à la foule. Je faire des crises d'angoisse au milieu de la foule où vraiment j'avais trop chaud, il fallait que je parte tout de suite de là où j'étais. Les manifestations féministes, ça me fait de l'angoisse. Parce que il y avait trop de gars. Et je sais que ces gars ont harcelé des copines. Genre, il y en a, tu les vois, ils sont là, ils viennent aux manifs et toi tu sais qu'il a touché le cul de ta pote à une fête. Et ils sont là, ils viennent manifester pour les causes féministes parce que l'égalité c'est bien. Des gens qui pensent être féministes mais qui n'ont pas réfléchi à leur comportement. Là, j'ai plus de tolérance.
Je m'appelle Marie Cissé, j'ai 16 ans et j'habite en Suisse, à Lausanne. Et je suis en ce moment au lycée, en seconde. Alors j'ai eu des années plutôt compliquées, surtout au début de mon collège. J'ai vécu du harcèlement. C'était surtout de la discrimination, dans le sens où on pointait du doigt mes différences physiques, que ce soit ma couleur de peau, la texture de mes cheveux. Ça pouvait passer par négresse et puis ce genre de choses, ou alors tête de chou-fleur, ce registre-là. Généralement, on m'incluait dans aucun groupe. Le sport se faisait avec toute la classe et du coup, personne ne me voulait dans son équipe. Ou alors, les gens râlaient quand je venais dans leurs équipes. Ou alors aussi, on pouvait me tirer les cheveux, etc. Enfin, à ce moment-là, je ne m'en rendais pas vraiment compte. J'avais plutôt l'impression que c'était moi qui avais fait quelque chose pour mériter ce traitement. Donc, j'étais constamment dans une remise en question, dans le sens où j'essayais de voir ce que je pouvais changer chez moi pour que ça puisse s'arrêter. J'en ai parlé à mon père, qu'on m'embêtait à l'école et que ça m'empêchait de bien me concentrer. Et lui est parti du principe que c'était peut-être que des petites chamailleries entre filles qui avaient 12 ans. Et du coup, c'était pas si important que ça. Il est quand même venu faire une intervention en cours parce que je lui avais raconté qu'un garçon m'avait tiré les cheveux assez souvent. Il est allé lui parler, sauf que le garçon a évidemment nié. Donc c'était un peu ma version contre la sienne. Donc on a juste commencé à m'ignorer petit à petit. Et puis finalement, la porte de sortie a été de changer de collège. Et je suis arrivée dans un collège qui était beaucoup mieux, avec des gens beaucoup plus accueillants et plus ouvert d'esprit. Et ensuite, mon lycée s'est très bien passé. En Suisse, il n'y a pas une si grande diversité. On se rend compte quand même assez vite qu'on est différent des autres. Et au fur et à mesure, en grandissant, on essaye de plus en plus à se diriger vers les personnes qui nous ressemblent. Et j'ai quand même pas mal de cousines en Suisse. Et ça me permet aussi de pouvoir me sentir pas si différente que ça au final. Et donc, en quatrième, je suis arrivée dans une classe où il y avait une autre fille camerounaise, guadeloupéenne et italienne. Et en discutant de ce qu'on avait vécu au niveau de nos classes, au niveau de l'appartenance, au niveau de comment est-ce qu'on se sentait lorsqu'on était entouré de personnes qui ne nous ressemblaient pas, eh ben, on s'est rendu compte qu'on avait des expériences plutôt similaires. Au niveau des remarques qu'elle pouvait avoir de la part de ses amis, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales et qu'on vivait un peu toute une expérience universelle. J'ai vraiment réalisé que j'étais une fille noire lorsque je voyais qu'on me traitait différemment des autres. Et les seuls facteurs qui différenciaient ma personne des autres, eh ben, c'était mon origine. Et donc, le militantisme a commencé par là. Et ça a un peu commencé à forger en moi cette envie de justice, un peu tout le temps, partout. Dans le sens où je voulais que tout soit égal, que tout le monde se sente bien. Et donc, j'ai commencé à dénoncer les sortes de micro-agressions que je pouvais observer autour de moi ou même envers moi. Par exemple, le fait de toucher mes cheveux sans autorisation, c'est irrespectueux, tout simplement. Dégradant aussi, d'une certaine manière, parce qu'on n'est pas un caniche, on n'est pas un petit chien qu'on aimerait chouchouter. C'est quelque chose qu'il faut arrêter. Je suis allée à une manifestation en 2019, du 14 juin, parce que les grèves féministes en Suisse sont le 14 juin. C'était une grève qui encourageait les femmes à aller manifester pour leurs droits, pour tout ce qu'elles représentaient, que ce soit au niveau du travail, que ce soit pour les femmes au foyer, pour les femmes qui sont victimes d'abus sexuels, queer. Enfin, c'était vraiment aller manifester pour vos droits, c'est bien, vous en avez l'occasion, vous en avez la possibilité, et c'est un privilège que peu ont. Et donc moi et quelques autres filles de ma classe, on était allées dans le cortège et puis on entendait les personnes crier différents slogans. Et ce que je me souviens, c'est qu'il n'y en avait aucun qui parlait de toutes les femmes en fait. J'avais un peu l'impression qu'on se focalisait sur les femmes qui vivaient en Occident et pas forcément sur les femmes qui étaient racisées, celles qui portaient le voile, celles qui... Enfin, c'était un peu les femmes blanches pour les femmes blanches. Et du coup, j'étais un peu triste par rapport à ça. C'était comme si, en portant la casquette de personnes racisées, je ne pouvais pas porter la casquette de juste femme. Et ça m'a beaucoup énervée à ce moment-là. Et j'avais l'impression que juste, j'étais pas celle qui devait me plaindre de mon rôle de femme parce que j'avais déjà le rôle de personne racisée à soutenir. Et je me souviens que 2020 et 2021, mes amis me demandaient « Ah, tu vas à la grève cette année ?» Et j'étais réticente parce que j'avais l'impression que j'étais pas parmi les personnes qui étaient représentées à ces grèves. Je me suis rendu compte que, en fait, il y avait certains traitements que je pouvais avoir qui étaient similaires à d'autres filles, en voyant que je me faisais traiter pareil. Le fait de se faire siffler dans la rue, le fait de se faire suivre jusqu'à chez soi, le fait d'avoir peur en sortant la nuit, le fait de devoir se demander si notre habit va nous attirer certains regards ou certains commentaires ou même certains comportements, que ce soit pour les femmes qui sont voilées ou on leur demande d'enlever leur voile ou les femmes qui sont jugées pas assez habillées, à qui on demande de plus se couvrir, c'est quelque chose qui nous touche toutes. Le féminisme, c'est pas que un féminisme qui vise les femmes blanches, mais qui vise vraiment toutes les femmes sans exception. Ça m'a permis de me dire que finalement... cette grève féministe, elle était aussi un peu pour moi. Et j'y suis retournée l'année dernière et j'étais très contente de voir qu'on parlait déjà plus des femmes à travers le monde. Et j'ai toujours voulu parler pour ceux qui n'en avaient pas la possibilité. Et donc de voir que ça commençait à se faire de mieux en mieux, et ben ça m'a rendue fière. Je pense que c'est très utile de manifester, crier dans la rue, parfois ça aide. C'est pas forcément des grèves où il y a des dommages qui sont faits, dans le sens où les magasins, ils se portent très bien, les arrêts de bus ne sont pas renversés, les poubelles ne sont pas brûlées. Mais on arrive quand même à se faire entendre. Et donc, je pense que ce sera toujours utile de parler tout le temps. Même si c'est parler à une personne, on ne sait pas où est-ce que ça va fleurir ensuite et on ne sait pas qui est-ce que ça peut toucher. Donc oui, il faut toujours utiliser sa voix pour s'exprimer, pour que peut-être celles qui n'en ont pas la possibilité, pas le courage ou juste pas l'opportunité puissent aussi se sentir représentées et entendues.
Je m'appelle Martin, j'ai 15 ans, j'habite à V, en Valais. C'est un petit village, c'est assez sympa. Je suis étudiant au collège. La première fois que j'ai entendu parler de la Grèce, c'était en primaire. J'avais peut-être 11 ans. Puis c'était ma prof, qui était très féministe. Elle a décidé d'aller faire la grève. Elle a été manifestée. Quand le lendemain, du coup, quand elle est revenue, on lui a demandé comment c'était. Puis elle nous a expliqué, elle avait dit comme quoi c'était assez important parce que c'est quelque chose qui touche toutes les femmes. C'est comme ça que j'ai découvert un peu le favoritisme qu'elle avait envers les filles dans notre classe. Quand il y avait une petite faute dans l'examen puis qu'on allait réclamer, c'était une fille, elle allait être plus indulgente avec elle et puis peut-être un peu moins avec nous. Mais je trouve que c'était pas très sympa tout ça. Et après j'en ai parlé avec ma mère et puis elle m'a expliqué un peu plus... C'était quand même assez important parce que les générations avant, elles se sont vraiment battues pour avoir ne serait-ce que le minimum, aller ouvrir un compte à la banque sans l'aide de son mari. C'est là que je me suis commencé peut-être un petit peu à m'intéresser et puis à me poser des questions sur pourquoi, par exemple, les femmes gagnent moins que les hommes. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert certaines injustices. Et puis après, j'ai été regarder ça sur des vidéos, sur YouTube, sur Google, directement des articles. Et puis ça m'a un peu touché, mais pas tant que ça, vu que moi, justement, je suis un homme, et puis ça va jamais vraiment me percuter dans la vie, parce que j'aurais jamais eu ces inégalités, vu que je suis né dans, entre guillemets, le bon sexe, logiquement. Je pense que c'est important que le sexe qui l'emporte aide ces femmes, justement, à avoir certains droits qu'elles n'ont toujours pas maintenant. Et puis, tout en trouvant une égalité pour pas que ce soit justement l'inverse, et que les femmes deviennent supérieures, comme les hommes le sont un peu maintenant. J'en ai reparlé avec ma famille autour d'un dîner le dimanche. Alors autour de la table, du tout, comme chaque dimanche, il y a mon frère, ma tante, ma grand-mère, ma mère, mon père et mon grand-père. Du coup, c'est sacré tablé. Et puis j'en ai parlé avec ma grand-mère. Elle est quand même de l'ancienne école, sachant qu'elle a 70 ans justement cette année. Et puis ma grand-mère, elle a amené ce sujet sur la table. Mon père, il a pas pris vraiment parti au débat. Mon grand-père, il a peut-être pris un petit peu parti, mais pas trop non plus, vu que c'est un homme, ça le regarde pas vraiment. Tout ce qu'ils ont pu dire, je pense, c'est qu'il y avait des inégalités, mais qu'il y avait peut-être plus important à régler avant. Ça a été assez court, mais on en a quand même parlé pour dire que les inégalités, elles existaient, puis que c'est des choses qu'on pouvait régler. Puis qu'il fallait juste que tout le monde se mobilise un peu, mais tout en restant pacifique, pas commencer à devoir être révolutionnaire, voilà. Je trouve que la grève à proprement parler, elle est importante et puis ça sert, je pense, quand même à que la femme elle puisse aller nous revendiquer dans la rue tout en restant gentille et pacifique. Faut pas quand même que ça commence presque à devenir des émeutes. Mais si c'était tous les jours, ce serait peut-être plus vraiment juste. Une fois dans l'année, moi je trouve que c'est bien. Enfin, la femme elle arrête de travailler à 15h, Et puis jusqu'à, je sais pas, peut-être 20h, elle peut aller une sieste dans la rue. Ça embête pas non plus grand monde. C'est une petite grève et puis les manifestations, elles sont dans la paix et puis dans la bonne humeur. Moi, je trouve que c'est optimal. Après, j'avais vu une pancarte levée, puis elle disait, je crois, mon vagin, il m'appartient. Ça, ça m'a un peu choqué, puis ça peut choquer certaines personnes. Après, libre à tout le monde de parler de sujets comme ça, s'il en a envie, mais je pense que c'est pas vraiment un truc que les femmes, elles revendiquent. Je pense qu'il y a une chose commune entre toutes les femmes de ce monde, c'est que elles sont tous inférieures à l'homme dans la société, mais que elles ont tous un combat propre à chacune, c'est d'avoir l'égalité des sexes. Mais je prends l'exemple de l'armée en Suisse qui est obligatoire. Imaginons un jour une femme, elle gagne le même salaire qu'un homme. Je pense que l'armée, elle devrait être aussi du coup obligatoire pour la femme. Et puis si elle n'a pas envie de faire l'armée, elle paye aussi la taxe comme l'homme pour que ça reste quand même juste. Je me sens quand même un peu féministe parce que c'est une cause qui touche tout le monde, une société en général. Après, le féminisme, on n'est pas tous touchés, mais on est un peu tous concernés parce que faut donner l'exemple pour les générations suivantes. Et puis, c'est comme ça que ça avancera. Peut-être pas dans les 10 prochaines années, mais peut-être dans les prochains siècles. Et puis, on verra.
C'était La Grève Féministe, un reportage d'Anne Delcette réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Léa, à Marie et à Martin, ainsi qu'à Patrick Muroni pour les sons de son film Grève, à Émilie Séverine, Olga Pauline Graff et Alessandra de Raemi. Merci également à Rachel, Pauline, Julie, Jonas, Joël, Eloïc, l'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris, et notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello.